Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie, la radio web de l'Institut de France. Nous sommes le 14 juillet, en milieu d'après-midi, devant l'arrivée des gardes françaises commandées par un certain Hulin, passé à l'insurrection. Le chef de la place, le marquis de Launay, signe la reddition de la Bastille, ceci en échange de la promesse qu'il ne sera pas fait de mal à la garnison. La foule, finalement, envahit les lieux. Le marquis de Launay est traîné jusqu'à l'hôtel de ville, massacré au sabre, sa tête coupée et promenée au bout d'une pique, tandis que certains poussent l'horreur jusqu'à boire le sang de la victime. La mémoire retiendra qu'il s'agissait de la prise de la Bastille, alors que la vérité nous fait dire que ce jour, le marquis de Launay laissa un des symboles de la monarchie aux insurgés. Il s'agissait effectivement, et je le répète, d'une reddition. Cependant, la violence de la réaction préfigure une autre violence qui s'exprimera tout au long de la Révolution française. En son temps, l'historien François Furet avait été écarté de la célébration du bicentenaire de la Révolution française par François Mitterrand parce que l'ancien membre de l'Institut refusait de célébrer l'événement comme un bloc. Il refusait de prendre la Révolution française dans son ensemble, précisément à cause de la violence et de la terreur qui s'exprimait au cours de son histoire. L'ancien président de la République, François Mitterrand, tout comme Georges Clemenceau bien avant lui, considérait, lui, que la Révolution française était un tout et que la célébrer, la fêter, impliquait de la prendre dans son ensemble avec sa part donc de violence. Quoi qu'il en soit, la Révolution française possède donc sa face obscure avec son cortège de massacres, de cruautés et d'inhumanité. Le symbole de cette violence s'incarne bien évidemment dans les événements de la Vendée. Alors que dans un premier temps s'établit une guerre civile, s'ensuit très vite ce que l'on va qualifier de véritable génocide, préfiguration des horreurs totalitaires du XXe siècle. Pourtant, les idéaux du XVIIIe siècle se voulaient être ceux de la tolérance, du respect et de la fraternité. Le mythe de la Révolution fut tel que, jusqu'à nos jours, en dehors de la littérature contre-révolutionnaire ou à de rares exceptions régionales ou locales, aucun travail de mémoire n'a été réalisé par les autorités françaises sur un plan national. De leur côté, les éditions du CERF ont souhaité réaliser ce travail de mémoire, mais aussi et surtout ce travail d'histoire. En publiant le livre noir de la Révolution française, elles ont fait appel à des historiens spécialistes de la période et ont désormais comblé un vide historiographique. Renaud Escande, bonjour.
Bonjour.
Je vais même dire mon père, puisque vous êtes dominicain. Vous êtes responsable du secteur philosophie aux éditions du CERF, et c'est vous qui avez dirigé cet énorme travail, un livre de plus de 800 pages. Nous y reviendrons. J'ai aussi l'honneur de recevoir au micro de Canal Académie Jean de Vigry. Jean de Vigry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, professeur honoraire à l'université de Lille 3 et surtout spécialiste du XVIIIe siècle français. Vous avez participé au livre noir de la Révolution française, c'est à ce titre que vous êtes à ce micro, mais vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages. Je citerai votre incontournable Histoire et Dictionnaire du temps des Lumières, paru chez Robert Laffont, votre biographie de Louis XVI également, parue aux éditions du Rocher, et enfin, votre réflexion sur l'idée de patrie au temps moderne et contemporain, un livre incontournable, Les deux patries, tel est son titre, paru chez Dominique Martin Morin. Alors, je me retourne vers Renaud Escande. Mon père, pourquoi un livre noir de la Révolution française? Quelles sont les origines de ce livre, et existe-t-il une filiation au fond avec le fameux livre de Stéphane Courtois, le livre noir du communisme? Et d'ailleurs, Stéphane Courtois participe à cet ouvrage.
L'idée nous est venue, nous sommes deux en fait, à l'origine de ce projet, Paul-Augustin Dorcan, qui a commis dans le livre un très bel article sur Nietzsche, et moi-même. L'idée nous est venue un soir, il y a plusieurs années, maintenant presque deux ans, dans mon bureau de la Tour Maubourg, où nous discutions ensemble de la politique éditoriale de la maison, mais plus généralement de la politique. tout court de la France. Nous étions à l'époque en pré-campagne électorale pour la présidentielle. Et nous faisions état de pas mal de discours que nous entendions émanant des chambres ou de divers organes de presse, où il était sans cesse fait mention de l'ancien régime. Je vous rappelle les phrases, jusqu'à très récemment du reste, que nous avons ou nous pouvons lire dans certains organes de presse. Vous vous prenez pour le roi, l'Élysée c'est pas Versailles, etc., etc. Et partant de là, nous avons essayé de voir comment la Révolution française, d'abord nous avions été apprises au cours de nos études. Moi j'ai été nourri au lait de Malet et Isaac, ce qui n'est pas une mince affaire, mais de voir comment ce mythe politique, à l'origine donc de la nation française contemporaine, ce mythe politique avait pu être utilisé politiquement au cours des siècles qui ont succédé à l'événement. Et comment en fait ce mythe s'était écrit au fil du temps. Et là, nous est venue l'idée d'un livre noir de la Révolution française avec, c'est vrai, et vous l'avez mentionné, ce modèle que nous voulions absolument suivre, le modèle du livre noir du communisme dont la responsabilité incombait à Stéphane Courtois et que nous voulions dans notre livre noir de la Révolution française. Nous lui avons téléphoné et il a très gentiment et très rapidement accepté d'y participer, y développant, je ne sais pas si nous en parlerons, son idée phare qui est de dire que toute l'idéologie totalitaire comprise dans les écrits de Lénine et dans les débuts de la Révolution russe était déjà en germe dans les écrits des révolutionnaires de 1789, 90, 91, 92.
Alors la première réflexion que je me suis faite finalement en voyant le livre, c'était pourquoi maintenant et pourquoi pas au fond parce qu'il n'y a guère d'actualité.
Alors, pourquoi maintenant ?
C'était vraiment les présidentielles qui ont suscité chez vous ?
Oui et non. Et c'était quelque chose que nous avions, que moi, pour tout vous avouer, je voulais faire un livre noir, mais pas de la Révolution française. Je voulais faire un livre noir de mai 68. C'était beaucoup plus d'actualité, mais je pense que les plaies sont trop chaudes et trop vives encore et qu'il n'est pas le temps, il n'est pas encore tout à fait le temps de faire ce livre. Peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans, on ne sait pas encore, mais pour l'instant, c'était pas possible. Le livre noir, j'ai pensé qu'on pouvait maintenant, en 2008, raisonnablement se poser la question de la Révolution et puis essayer de questionner les historiens sur l'écriture de ce mythe. Je me plaçais, bien sûr, après François Furet et après tous ses travaux, bien que François Furet, lors du bicentenaire de la Révolution française, a quand même eu pas mal de problèmes, il faut le rappeler. Oui. Et donc, en fait, je jugeais le temps mûr pour pouvoir m'entourer d'historiens de valeur pour réfléchir à cet événement d'une manière décomplexée, d'une manière libre et d'une manière finalement assez nouvelle.
Alors, le livre a fait l'objet d'un premier tirage. L'éditeur voyait un peu petit finalement puisqu'il a tiré 2000 exemplaires. Mais très vite, ces exemplaires ont été épuisés.
Le jour même.
Aujourd'hui, vous êtes à plus de 10 000. Vous attendiez un tel succès ?
Non, je ne m'attendais pas à un tel enthousiasme de la part des lecteurs. Enthousiasme négatif. Et positif, parce que ce livre-là, alors c'est vrai que le titre est polémique, c'est un livre noir, ce n'est pas une encyclopédie, il y a donc un propos engagé qui est derrière. Mais je ne m'attendais pas à une réaction, bien avant même la publication de ce livre, de la part de lecteurs, qui n'en étaient pas, puisque le livre n'était pas sorti, anonyme, j'ai reçu énormément de lettres d'injures, de lettres de menaces, signé bien sûr anonymement ou alors avec cette signature laïque.
Pourtant, votre démarche, elle ne se voulait pas finalement politique dans le sens où vous ne réserviez pas l'exclusivité de l'ouvrage aux historiens de droite, mais vous l'avez également proposé à des historiens de gauche
qui ont refusé. Non, je voulais absolument essayer de regrouper les historiens de valeur. C'est essentiellement cela qui m'a guidé, objectivement. C'était des gens de valeur qui avaient produit une œuvre ou des essayistes qui avaient déjà pas mal d'œuvres derrière eux. Je voulais m'entourer d'eux pour que nous puissions ensemble mener une œuvre commune. Apparemment, ça a fait peur à certains. certains, voilà, et qui se sont vengés par la suite avec des articles très 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 méchants.
Alors le livre se vend bien. Plusieurs membres de l'Institut ont participé au livre noir de la Révolution française. Philippe Chenu, Emmanuel Leroy-Ladurie, Jean Tullard, évidemment. Alors l'article de Chenu fait en quelque sorte office de préface.
Tout à fait.
Alors un autre membre de l'Institut aurait pu y participer, nous l'avons cité, c'est François Furet. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Vous placez le livre noir de la Révolution française dans la continuité de l'œuvre de Furet ?
Absolument, et dans la suite de ses thèses et de sa dernière thèse qui est la théorie du bloc. Enfin, la thèse du bloc de la Révolution française, on ne peut pas différencier les différentes phases. C'est absolument dans ce travail-là et dans ces idées-là que nous avons poursuivi ce travail et que nous l'avons réalisé, absolument. Mmh. Mmh. Tout à fait.
Il y a un mythe révolutionnaire à briser ?
Bien, oui, et puis la réception en fait de ce livre-là le prouve énormément. Il y a une espèce d'impensé et d'impensable de la Révolution française actuellement encore dans la société française qui fait que, oui, on peut dire qu'il y a un mythe. Et du reste, j'ajouterai l'impact et l'intérêt des étrangers pour ce livre-là le prouve aussi. Puisque ce livre-là, on a déjà demandé les droits en espagnol, en italien, en allemand et bien sûr aux États-Unis, puisque c'est un événement qui intéresse énormément l'Europe, et pour cause.
Vous avez conscience, quand vous avez préparé le livre, d'opérer véritablement une révolution intellectuelle ?
Je ne le pensais pas à ce point. Je vous avoue que je ne le pensais pas à ce point. Et puis, ce qui m'intéresse maintenant, alors le livre, il est là, il existe, il est perfectible. Bon, je suis heureux d'avoir contribué et d'avoir pu mener à bien ce gros projet. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la suite. C'est les échos qui pourrait y avoir, les livres qui vont naître de cela, les réflexions et les débats que ce livre pourra engendrer. Je vous avoue que jusqu'à maintenant, les grands médias français m'ont déçu quant au débat ou au non-débat qu'ils ont provoqué à la suite de la publication de ce livre.
Alors justement, quel est le contenu de cet ouvrage ? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Nous nous retrouvons, à tout de suite.
Marguerite Yourcenar fut la première femme écrivain élue à l'Académie française. Canal Académie consacre 4 grandes émissions aux différents aspects de son talent, son œuvre romanesque, son érudition et son travail de traductrice. Marguerite Yourcenar, une citoyenne du monde, 4 émissions sur Canal Académie.
Je reçois Renaud Escande, le père Escande, directeur du Livre noir de la Révolution française, paru aux éditions du Cerf, ainsi que Jean de Vigry, professeur honoraire à Lille 3 et historien spécialiste du XVIIIe siècle, donc pour évoquer la Révolution française. Alors, nous avons présenté un peu le cadre, le contexte également historiographique. Venons-en, Renaud Escande, au contenu. Vous avez opté pour une division tripartite, en fait, de l'ouvrage.
Alors, là encore, nous, bien que ayant pris pour modèle le livre noir du communisme de Stéphane Courtois, nous nous en sommes éloignés sur plusieurs points. D'abord, la multiplicité des auteurs. Il y a à peu près 45 auteurs, je crois, contributeurs dans ce livre noir, ce qui est énorme, ce qui donne en fait comme une somme, le goût d'une somme ou presque d'un bréviaire, j'allais dire, de la contre-révolution. Donc, 40 auteurs, le livre noir du communisme en totalisait 6, je crois, 6 auteurs. Donc, 40 auteurs multipliés les angles d'attaque en fonction de la spécialité du contributeur, des uns et des autres. Alors, et ceci en 3 grandes parties. La première qui s'occupe des faits, qui est la partie laissée aux historiens. Et donc, cette partie-là, qui fait à peu près 400 pages, enfin 300 pages, je ne sais plus combien, eh bien, suit dans un ordre chronologique les faits depuis un petit peu avant la Révolution française, puisque M. Jean Petit-Fils s'occupe, lui, déjà de l'action de Louis XVI en 1787, jusqu'à la Terreur et bien après, les conséquences même de la Révolution française durant tout le 19e siècle et même durant une partie du 20e siècle. Pour se terminer, cette partie des faits, donc historiques, sur un article que j'aime beaucoup de Jean Sévilla, un historien de renom que l'on connaît, avec ce titre assez provocateur, il faut bien l'avouer, « Y aura-t-il ou fêtera-t-on le tricentenaire de la Révolution française ?» Alors ça, c'est un article très très intéressant, je n'en dis rien, je laisse au lecteur le plaisir de le découvrir.
Et je renvoie nos auditeurs aux émissions et enregistrées avec Jean-Christian Petit-Fils et avec Jean Sévilla.
La deuxième partie,
vous l'avez appelée le génie de la Révolution. Alors, non pas le génie de la Révolution française,
c'est bizarrement
le génie tout court.
La partie qui a été le plus critiquée par les auteurs qui ont commis des articles dans les organes de presse, et c'est celle que je défendrai coûte que coûte. C'est en fait l'écriture ou la réécriture du mythe révolutionnaire par des auteurs durant tout le 19e et une partie du 20e siècle. Ce qui nous intéressait, Paul-Augustin Dorcan et moi-même, qui était à l'origine même du projet, c'était justement cette écriture du mythe. Comment l'histoire a été reprise, réécrite au fil des siècles, souvent du reste pour justifier une situation dans laquelle l'écrivain écrivait, mais jusque vers chez nous.
La Révolution française vue par Chateaubriand, par
les
Balzac,
auteurs, par des grands auteurs
ou
de la...
bien par Nietzsche,
exactement,
ou bien Bainville.
Par des grands auteurs, par des grands noms de la littérature ou de la pensée française et contemporaine. Alors bien sûr, il y a les incontournables, la pensée contre-révolutionnaire que l'on connaît peu en France. Alors, les Demestre, les Bonald et j'en passe. Mais il nous a paru intéressant de questionner des grandes figures qu'on n'aurait pas jugées d'emblée bon de se trouver dans ce livre-là. Alors bon, vous les avez cités, Chateaubriand, Balzac, Baudelaire, Peggy, Blois, Anna Arendt, jusqu'à Maurras, en fait, hein. Voilà, et c'est une partie qui s'occupe donc de l'écriture, du mythe, et nous avons laissé cela à des spécialistes de ces auteurs-là. Et une troisième partie qui était nécessaire, moi je ne suis pas historien, donc c'est une partie qui m'intéresse parce que je n'ai pas accès aux données,
au texte
même, donc c'est une anthologie que nous avons laissé le soin de confectionner à un chartiste, un dominicain, un frère dominicain, donc un confrère, qui en fait s'est attaché à offrir au lecteur tous les textes que l'on ne trouve plus ou qui ne sont plus édités ou qu'on ne trouve tout reste pas du tout, qui sont des textes tirés des archives de la Bibliothèque nationale de France.
Donc il y a des textes inédits.
Absolument, j'ai dû réduire, puisque j'avais 800 pages d'archives là-dessus, j'ai dû réduire à 200-250 pages, je crois, pour avoir un total du livre de près de 900 pages, ce qui fait quand même une grosse brique. Voilà.
Alors, il y a eu une critique qui est précisément sortie dans la presse française, c'est que le livre, certains disaient qu'il n'apportait rien de nouveau, et c'est une critique contre laquelle vous placez, bien évidemment.
C'est la pire et la plus perverse. C'est la critique qui m'insupporte au possible, je l'ai déjà entendu, et je l'ai entendu d'emblée, même avant la sortie. Pourquoi tu fais ça? On a déjà tout dit. C'est une façon pour moi de nier tout débat. De nier tout débat. C'est une façon de dire, très bien, n'en parlons pas, passons. Et je réponds à cela, eh bien non, moi je ne le savais pas. Je fais figure d'idiot et de naïf en disant, écoutez, moi, le naïf non-historien qui m'occupe essentiellement de philosophie, eh bien, j'ai fait ce livre d'abord pour moi et pour ma génération. Et en cela, je crois que c'est un livre bénéfique. Et puis, un livre de salut public, presque, je vais dire, puisque les réactions sont là. Je ne sais pas si vous êtes donc spécialiste du web à Canal Académie. Eh bien, tapez le nom « Livre noir de la Révolution française », il y a plus de 11 000 pages sur ce livre. Ça débat sur le web, pour parler moderne. Et cela, c'est ce qui m'intéresse. Ce livre-là, oui, il y avait besoin de le faire. Non, nous ne savons pas tout. Et oui, il faut se le rappeler sans cesse. Et je rappellerai le devoir de mémoire. Je cite le mot de Reynald Secher, qui bien sûr est très connu pour son travail sur la Vendée, de mémoricide. Nous ne faisons plus mémoire de ce premier génocide d'État, si je puis dire. Eh bien, c'est un devoir pour la jeune génération de se le rappeler.
Jean de Vigry, peut-être un mot sur le caractère inédit, votre regard d'historien. Vous avez bien évidemment lu dans sa totalité cet ouvrage. Vous y avez trouvé des éléments que vous ne connaissiez pas, des angles d'attaque auxquels vous n'aviez pas pensé?
Oui, bien sûr. Il y a des contributions neuves, très neuves. Je pense à celle qui concerne la Marine royale.
Ah oui, tout à fait.
C'est un jeune historien, je
tout
crois.
Tout à fait, tout à fait.
Oui. Il y a l'article d'Adjadj sur Anna Arendt,
très très bon article.
Qui est très neuf. Il y a beaucoup de choses. La contribution de Leroy Ladurie est également très intéressante parce que c'est la première fois que l'on s'occupe de façon sérieuse et qu'un spécialiste s'intéresse à cette question du contexte climatique et météorologique. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Enfin, j'y ai trouvé beaucoup de faits nouveaux, d'interprétations nouvelles. Tout ce qui concerne le génie, comme vous dites, qui n'est pas le génie de la Bastille, mais
non.
Qui, le génie de la Révolution après la Révolution, est également très intéressant. Oui, moi, je suis content d'avoir ce livre. J'ai fait partie du comité du bicentenaire de la Révolution. Ce comité du bicentenaire qui n'a finalement pas donné grand-chose, qui n'a pas abouti à des publications de grande importance, de grand intérêt, qui s'est occupé essentiellement de financer des travaux sur tel ou tel sujet, qui n'a pas réalisé d'œuvre de synthèse. Donc ce travail me paraissait venir tout à fait à point.
Au fond, vous connaissez un peu Jean de Vigry, ce que vous appréciez également, c'est de poser sur la place publique un débat qui n'a jamais eu lieu, ou très peu, peut-être à un niveau local ou à un niveau régional,
oui.
Qui se cantonnait par exemple à la Vendée.
Oui, il y aura une difficulté toujours à avoir un débat, parce que les sectateurs de la Révolution française ne sont pas des amis du débat.
Absolument pas.
C'est extrêmement difficile de débattre avec eux. J'ai connu les grands, j'ai connu Soboul, par exemple. Il n'était pas question de débattre avec lui. Pour lui, successeur des grands ancêtres, il n'était pas question de discuter de la Révolution. J'imagine qu'aujourd'hui, ceux qui tiennent ces chaires d'histoire de la Révolution, qui occupent les positions officielles, ne sont pas disposés plus qu'autrefois à débattre. Peut-être avez-vous consulté Vauvel, Michel Vauvel.
Oui.
Il n'a pas voulu participer. Donc c'est très difficile de débattre. Ou bien alors, il faut imaginer un débat. Il faut imaginer une autre personne qui discuterait avec vous en défendant d'autres thèses. Un peu comme on joue au bridge de façon factice. Mais autrement, ce n'est guère possible. Et ça ne sera jamais possible, à mon avis. La Révolution n'accepte pas, justement, le débat.
Votre revanche, Renaud Escande, c'est peut-être, au lieu d'avoir justement un débat institutionnel, des institutions vers le public, il y a un débat aujourd'hui entre le public sur Internet.
Absolument. Et cela, c'est la grande vengeance. Et c'est le grand plaisir que je peux avoir. Tout à fait. Absolument. Et un des grands intérêts de ce livre, qui nous a été critiqué par Madame Mona Ouzouf, pourtant j'ai un grand respect pour son travail et pour son œuvre. Je ne sais pas si vous avez lu l'article qu'elle a commis dans le Nouvel Observateur, qui n'est pas... parlant de jeunes auteurs fatigués. J'ai été très, très... D'abord, estomaqué devant l'idéologie de son article. C'est vraiment une haine totale devant toute critique possible de la Révolution française. Et puis, ces jeunes auteurs fatigués. Alors, moi, je répondrai à Madame Ouzouf que oui, nous sommes fatigués d'un certain discours, c'est vrai. Et pour moi, c'était très intéressant et fondamental que dans ce livre de 40 contributeurs, il y ait une grande majorité de jeunes écrivains. Alors, Jean Vigry fait figure de grand prêtre, mais il y a énormément de jeunes 40 ans,
oui.
Qui sont en fait cette jeune génération qui a envie de penser autre et autrement qu'une historiographie des années 70, pour ne pas dire...
Oui, j'ai été très heureux de trouver ces noms nouveaux. Ça m'a fait grand plaisir.
Voilà, et j'en suis très très heureux. Et je dis, ouf, enfin, passons à autre chose.
Alors, peut-être une dernière question, Renaud Escande, avant de passer à une question précise du livre noir de la Révolution avec Jean de Vigry. Peut-être c'est une question un peu intime. Vous êtes dominicain et est-ce que votre état religieux a joué un rôle dans ce livre? Est-ce que vous vous êtes senti plus libre dans sa réalisation?
Eh bien, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse puisque je fais partie d'un ordre. Alors, c'est vrai que c'est un ordre très, très porté sur la chose intellectuelle où le concept de veritas est notre devise, faut le savoir. Donc, nous devons faire la vérité. C'est un long travail, le travail de toute une vie, de tous les siècles. Mais ça n'a pas été sans difficulté. N'a pas été sans difficulté puisque justement, cette génération 70 a beaucoup pesé dans l'histoire de mon ordre. et qu'il a fallu un petit peu aller à rebrousse-poil et puis imposer ses idées. Alors j'ai été aidé par beaucoup de frères et soutenu, moins aidé par d'autres. Donc mon statut de religieux et de prêtre n'a pas été d'une grande aide là. Et même pour certains détracteurs, une critique facile. Voilà, la revanche du clergé, bon, ça je l'ai entendu facilement, ce n'est pas très, d'abord pas très intelligent et puis surtout pas vrai pour le coup. Là.
Et sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'ecclésiastique
en fait. Il y en a si, un c'est Jean-Michel Potin, un frère dominicain aussi, et puis le frère qui s'occupait de l'anthologie, le frère chartiste. Voilà. Mais sinon, je n'ai justement pas voulu multiplier les confrères, justement pour laisser d'abord parler l'historien. Et puis voilà.
Est-ce que, je me retourne vers Jean de Vigry, est-ce que justement du point de vue historiographique, nous évoquions cette jeunesse qui s'intéresse à ces questions, est-ce que vous sentez, vous qui avez vécu plusieurs générations, vous disiez tout à l'heure que vous aviez connu ce boule, une évolution sur ces questions?
Oui, l'absence de parti pris. L'absence de parti pris est un point de vue très objectif. À la différence de ce que nous faisions dans les années 70.
C'est-à-dire qu'il y a moins d'idéologie
aujourd'hui.
Moins
d'idéologie, beaucoup moins d'idéologie. Et surtout, on ne s'occupe pas justement de l'idéologie. On analyse les faits et on se borne là. Et ça, c'est un très grand progrès. Ma génération était en réaction contre l'idéologie soboulienne, si je puis dire, et hollardienne, comme l'avait été autrefois Augustin Cochin. Nous étions donc instinctivement dressés contre cette idéologie. Cela nous aidait d'ailleurs à travailler. Nous essayions de rompre avec l'idéologie dominante. Le point de vue actuel des jeunes historiens ne semble pas être celui-là. Peut-être la pression de l'idéologie est-elle moins forte dans l'université, dans les milieux des chercheurs, qu'elle ne l'a été. D'ailleurs, l'un des derniers titulaires de la chaire d'histoire de la Révolution à la Sorbonne, Michel Vauvel, n'est pas un spécialiste de la Révolution. Il l'est devenu par nécessité, parce qu'il fallait bien trouver quelqu'un, mais il n'est pas un spécialiste. Berthaud, qui enseigne encore à la Sorbonne, est un spécialiste de la Révolution, mais il a étudié un aspect particulier, la guerre, les soldats, et il est déjà un peu éloigné de la réalité idéologique, si je puis m'exprimer ainsi.
Je reçois Renaud Escande, le père Escande, et Jean de Vigry, historien, pour nous présenter le livre noir de la Révolution française, paru aux éditions du Cerf. Nous nous retrouvons après cette deuxième pause.
Pourquoi la musique de Mozart est-elle tout à fait accessible à tout cœur humain? Gilles Cantagrel, correspondant à l'Académie des Beaux-Arts, est venu présenter une communication sur Mozart le 22 mars 2006 devant les membres de l'Académie. À travers les manuscrits du célèbre compositeur, Gilles Cantagrel vous propose de découvrir, selon ses mots, quel fut le tempo de la vie du célèbre compositeur dont la brièveté souligne le génie miraculeux. Retrouvez Gilles Cantagrel dans l'émission En séance.
Nous entamons la troisième partie de cette émission consacrée au livre noir de la Révolution française. Je reçois son directeur, celui donc qui a dirigé ce projet, hein, plus de 45 historiens, juristes également, journalistes, qui sont penchés sur la Révolution française, sur la face obscure de la Révolution française. Donc un livre paru aux éditions du Cerf. Et je reçois également Jean de Vigry. Alors je le disais tout à l'heure, Pierre Chenu a écrit le premier article de ce livre consacré à la sécularisation des biens du clergé. Et dans cet article, un historien y est cité de manière régulière, c'est vous, Jean de Vigry. Alors vous ne faites pas partie de l'Académie ou de l'Institut, en revanche vous faites partie d'une académie, vous me le disiez hors antenne, l'Académie des Jeux Floraux, qui en dépit de son nom, eh bien, est tout de même la plus vieille académie du monde, puisqu'elle est née, je crois, en 1323.
Oui, effectivement.
Quel était son rôle?
Son rôle était de distribuer des prix, des récompenses sous forme de fleurs, aux meilleurs poètes occitans et poètes français. Et au départ, seulement poètes occitans. Nous continuons d'ailleurs à décerner des prix.
J'en reviens à notre sujet, je ferme cette parenthèse. Vous êtes spécialiste de l'histoire religieuse au XVIIIe siècle et de l'éducation. Vous avez choisi de traiter la persécution religieuse dans le livre noir de la Révolution française. Et dès les premières lignes, vous qualifiez cette persécution d'inattendue et de surprenante. Pourquoi ces deux termes ?
Inattendue et surprenante, parce que l'idéal, l'une des valeurs des Lumières est la tolérance, qui a été défendue par presque tous les philosophes, et en particulier par Voltaire, dans son traité de la tolérance. Alors, on peut se demander pourquoi la Révolution, qui est à l'école des philosophes, prétendu le contraire, mais elle est à l'école permanente des philosophes, Voltaire surtout, Rousseau également, et Montesquieu. Mmh. Montesquieu, qui joue un rôle très important aussi dans la pensée révolutionnaire. Pourquoi la Révolution, qui est à l'école des philosophes, persécute très tôt la religion et les prêtres.
Depuis quand en France n'avait-on pas vu une persécution religieuse
de la sorte ?
Je pense
qu'il faut remonter aux persécutions de l'Antiquité, il faut remonter à la persécution de Dioclétien, qui est la plus cruelle, la plus connue de toutes. Il n'y a rien de semblable depuis cette persécution. On a persécuté certainement des religions, mais on n'a pas persécuté, enfin des religions. On a persécuté le protestantisme, par exemple, on a persécuté les cathares, mais on n'a pas persécuté le christianisme. On n'avait jamais persécuté le christianisme depuis la persécution de Dioclétien. C'est la première en date, grande persécution.
Est-ce qu'on peut faire un bilan chiffré de cette persécution ?
Oui, bien sûr. On ne peut pas dénombrer exactement les victimes, mais enfin, il y a quand même, on sait que 8000 prêtres religieux et religieuses ont succombé, ont été les victimes de cette persécution. J'avais commencé un dénombrement des religieuses. Les religieuses sont moins nombreuses que les prêtres et les religieux, mais il y en a quand même une centaine qui ont été guillotinées. Et on connaît les carmélites de Compiègne, les ursulines de Valenciennes, les religieuses immolées à Orange.
Alors, cette persécution, elle commence non pas en 1793, date que l'on retient généralement pour évoquer la terreur et la violence, mais elle commence dès 1789.
Oui, dès 1789, avec la sécularisation des biens du clergé, avec le refus de déclarer la religion catholique religion de la nation, religion de l'État. Il y a eu un débat très important à l'Assemblée constituante à ce sujet. Et puis, très tôt, l'obligation du serment. Très tôt, dès juillet 1790. L'obligation du serment, d'abord sous peine d'être démis de ses fonctions, et ensuite sous peine de déportation, et puis sous peine de mort.
Alors, il y a une idée que vous développez qui m'a vraiment surprise, mais au fond, elle est évidente. La première étape, donc, vous le disiez, c'est la confiscation des biens du clergé, et il y a des conséquences de cette confiscation, puisqu'elle affecte l'Église, mais aussi tous ceux qui bénéficient de l'aide de l'Église, au premier rang desquels les pauvres.
Bien sûr, les pauvres. Et puis, elle porte atteinte aux vœux des fidèles. Ce sont les fidèles qui ont fait ces fondations, ce sont les fidèles, ce sont les chrétiens qui ont donné ces biens à l'Église. Et ils les ont donnés pour des messes, pour des œuvres, pour des cérémonies de toutes sortes. Et les fidèles sont donc frustrés, très, très fortement frustrés par cette confiscation. Les fondations sont interrompues. Alors ici, j'essaie de montrer dans mes livres et aussi dans la contribution que j'ai donnée au Livre Noir que la fondation défie le temps. Et c'est le temps chrétien, c'est le temps de Dieu. Et c'est un défi au temps. Tandis que les révolutionnaires n'admettent pas ce défi. Et les philosophes des Lumières ne l'admettent pas également. Tout doit passer, s'écouler, rien ne doit être maintenu, rien ne doit subsister.
Vous évoquiez également la deuxième étape, la constitution civile du clergé de 1790. Essayons de rentrer dans la logique révolutionnaire. Pourquoi remplacer une église, au fond, par une autre ?
Les révolutionnaires l'un d'eux a dit, c'est le Camus, a dit « Nous aurions pu changer la religion, mais nous ne l'avons pas fait ». Il pensait que, étant représentants de l'État, étant représentants de la nation, ils avaient tout pouvoir. Ils auraient pu changer la religion. Ils se sont bornés à changer l'organisation de l'Église, à créer une Église d'État. Une Église d'État très étonnante, puisque c'est l'Église d'un État sans religion. Église d'État pour un État sans religion. C'est la logique des révolutionnaires, du comité ecclésiastique en particulier. Car tout dépend de la loi, tout dépend de la nation. la nation est souveraine et la loi est nécessaire. La loi est nécessaire parce que c'est elle qui fait en sorte que les hommes s'entraident les uns les autres. Parce que l'homme veut jouir. C'est l'idéal de l'homme, de l'individu, tel que le conçoit la Révolution. Pour exister, il faut jouir. Il faut jouir, profiter. Mais on ne peut pas jouir sans ses semblables, sans les autres. Or, l'égoïsme naturel de chaque individu fait qu'il ne se préoccupe pas des autres. Et la loi est là pour l'obliger à aider les autres et à les aider à jouir. Or, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de société possible. Il n'y a pas de fondation durable de société. C'est pourquoi il faut obéir à la loi, il faut que la loi soit souveraine et que nul ne refuse de lui obéir. Et c'est une des grandes raisons pour lesquelles le prêtre réfractaire qui a refusé de prêter serment est un grand coupable. Il est un grand coupable parce qu'il refuse d'obéir à la loi.
C'est un crime de lèse-nation.
C'est un crime de lèse-nation et puis surtout c'est un crime de refus de l'équilibre indispensable de la société. Sans loi, il n'y a pas de société possible. Car il n'y a, vous le savez, que des individus. Des individus dans un grand tout qui est la nation. Et ces individus sont perdus dans ce grand tout. Et il faut que la loi soit présente constamment pour obliger les individus à vivre ensemble. Autrement, ils ne pourraient pas vivre ensemble. L'homme n'est pas un animal politique, n'est pas un animal social. Il est tout seul. Il est tout seul au milieu de ce grand tout qui est la nation. La loi est donc nécessaire. Alors ce prêtre qui refuse de prêter serment à la Constitution, à la nation, à la loi et au roi, qui refuse d'obéir à la nouvelle Constitution civile du clergé fabriquée par l'Assemblée constituante, ce prêtre est un grand coupable. Parce qu'il trahit la société. Il met en danger l'existence même de la société. Et c'est pourquoi, très tôt, le prêtre réfractaire, le refus de serment, sont considérés comme des choses terribles, qui mettent en danger non seulement la Révolution, mais la société elle-même.
Et le prêtre, disons, l'objectif de toucher le prêtre réfractaire est un objectif qui n'est pas un hasard, puisque c'est lui qui est au centre du culte catholique.
Ah ben oui, bien sûr. La religion catholique est extrêmement vulnérable dans ses prêtres, car elle a un besoin très important du prêtre. Le prêtre est l'homme des sacrements, l'homme du sacrifice, et sans lui, la religion catholique n'a plus de sens. Il incarne le Christ, il est le Christ lui-même. Alors, pour détruire la religion catholique, il faut s'en prendre à ses prêtres. C'est extrêmement important. Or, il faut détruire la religion catholique. L'intolérance, vous me direz, comment se concilie-t-elle avec cette persécution ? Elle se concilie très facilement si l'on regarde la définition de la tolérance donnée par les philosophes. Voltaire dit « Il faut commencer par n'être pas fanatique pour mériter la tolérance ». Il faut commencer par n'être pas fanatique, c'est-à-dire il faut commencer par n'être pas catholique. C'est le sens que Voltaire donne au mot fanatisme, le catholicisme. Alors si vous êtes catholique, vous ne méritez pas la tolérance.
Donc la tolérance a des bornes ?
Ah ben la tolérance a des bornes, bien sûr. Elle a des bornes parce que si vous êtes un méchant, vous n'êtes pas tolérable. Et un fanatique, c'est un méchant. C'est lui qui met en danger la société. C'est lui qui met en péril l'équilibre social tout entier.
Donc il y a en quelque sorte une distinction entre tolérance civile et tolérance religieuse.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, vous citez justement, on est au cœur du sujet, la devise « la liberté ou la mort ». Quel est le véritable sens de cette devise ?
Oh, la liberté ou la mort. Certains révolutionnaires ont même dit « la liberté et la mort ». Il faut être libre, mais il faut aussi faire mourir les ennemis de la Révolution. Et c'est la grande inquiétude de la Révolution, c'est d'être menacé, c'est d'être interrompu, c'est de ne pas pouvoir aboutir et ne pas pouvoir durer. La Révolution vit dans la crainte perpétuelle de ses ennemis. Si on lit les débats des assemblées successives, l'assemblée constituante, l'assemblée législative, la convention, on voit que cette crainte est permanente. La patrie, d'ailleurs, est représentée toujours une pique à la main. Elle est en alerte permanente contre les ennemis de la Révolution. Pourquoi cette crainte des ennemis ? Mais justement parce que nous sommes dans une utopie. une utopie qui peut s'évanouir d'un moment à l'autre, qui peut disparaître, qui peut se dissoudre. Or, les révolutionnaires en ont une sorte de conscience, une conscience qui n'est pas très, comment dirais-je, très nette, mais ils craignent la dissolution définitive de leur mouvement révolutionnaire. Et ils sont en alerte contre les ennemis de la révolution, une alerte permanente. Ennemis intérieurs et ennemis extérieurs. Mais surtout ennemis intérieurs, parce que l'ennemi intérieur, on le voit pas, on le connaît pas bien. Alors que l'ennemi extérieur est aux frontières, on pourra aller le défaire, le repousser. L'ennemi intérieur est caché, on le voit pas ou on le voit mal. Et c'est donc lui qu'il faut atteindre, et c'est la raison, cette crainte de l'ennemi intérieur, c'est la raison principalement des massacres de septembre.
Alors, il y a, à vous écouter, une anthropologie particulière des Lumières qui est surprenante à bien des égards. Et dans un autre de vos ouvrages, Itinéraire d'un historien, vous montrez même les traces d'antisémitisme et de racisme qui existent dans la philosophie développée à cette époque.
Oui, bien sûr. Le fondateur de l'antisémitisme des Lumières, c'est Voltaire. Voltaire, on ne peut pas le nier, est antisémite. Toute sa correspondance le prouve, son dictionnaire philosophique également. Les spécialistes de Voltaire, les grands spécialistes universitaires, ont longtemps refusé de l'admettre ou ont essayé de dissimuler cet antisémitisme, mais il est antisémite. Et il est antisémite non seulement vis-à-vis des Hébreux, des Juifs de l'Ancien Testament, mais aussi vis-à-vis des Juifs de son temps. C'est ce qu'il ne faut pas dissimuler. Et puis ensuite, alors après lui, beaucoup d'autres philosophes ont repris ce thème de l'antisémitisme. Je pense en particulier à l'abbé Grégoire. L'abbé Grégoire qui aurait voulu transformer les Juifs, les transformer en bons citoyens, mais qui voit toute la difficulté d'un tel travail. Et je suis très étonné qu'on ait mis l'abbé Grégoire au Panthéon, parce que dans ses écrits, il manifeste un antisémitisme certain. Le Juif, pour lui, est incapable de s'adapter à la société. Il faut travailler à l'adapter, mais ce sera très difficile. Y arrivera-t-on jamais?
Et le racisme?
Le racisme, alors...
C'est une conception de l'homme, en fait.
Il est patent. D'abord, l'homme, en général, est une pauvre chose. Il y a un certain mépris de la nature humaine chez le philosophe. C'est une pauvre chose. L'homme, la philosophie des Lumières le réduit. Oui. Il n'a pas de liberté. Le libre arbitre n'existe pas. Voltaire le pense. Rousseau également. Galliani, Helvétius ont tous dit « l'homme n'est pas libre ». Il croit l'être, mais il ne l'est pas. Et quelquefois, il croit l'être, il s'imagine qu'il peut agir à sa guise, librement, mais en fait, c'est faux, il s'illusionne. Donc il y a une conception réductrice de l'homme chez tous les philosophes. L'homme n'est pas libre, la charité est chimérique, l'homme croit avoir de la charité, mais en fait, il agit par intérêt, pour jouir, et en fait, il n'a pas de véritable charité. Tout ce qu'il fait, c'est par besoin. Donc, en général, une conception réductrice de l'homme. Alors, cette conception réductrice de l'homme, elle s'aggrave lorsqu'on considère les peuples comme les Noirs, les Lapons, les Jaunes, et toutes les populations de l'humanité lointaines et de peu de consistance. Les philosophes sont généralement très méprisant vis-à-vis de ces peuples éloignés, de ces Noirs. Pour Voltaire, un Noir est pratiquement un singe. J'avais donné à la Revue Historique un article sur ce sujet, sur l'ethno-différentialisme, car je ne pouvais pas parler de racisme, l'ethno-différentialisme des Lumières. Et cet article, nul n'a trouvé à y redire. Jean Favier l'a publié dans la Revue Historique. Et il est truffé d'exemples, de citations, concernant le mépris de la philosophie pour la plupart des populations de l'humanité. Les plus méprisés sont les Lapons. Je ne sais pas pourquoi les Lapons sont considérés comme vraiment rien du tout. Je me le demande.
Alors, je ferme, Jean de Vigris, cette parenthèse sur l'anthropologie et j'en reviens à l'Église. Quel est le rôle de l'Église clandestine? Est-ce qu'elle arrive à maintenir l'essentiel? C'est ce que nous allons voir après cette toute dernière pause. À tout de suite.
Canal Académie vous propose de revenir sur les grandes étapes de l'évolution des espèces. 4 milliards d'années, ainsi compilées en 45 minutes, le temps de l'émission, avec Claude Combes, membre de l'Académie des sciences. De la première cellule Lucas aux organismes pluricellulaires, des parasites aux éléphants, Claude Combes nous entraîne dans le vaste tourbillon de la vie à partir de son livre de vulgarisation scientifique « Darwin, dessine-moi les hommes ». Téléchargez dès maintenant cette émission. Elle est en libre écoute sur Canal Académie.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée au livre noir de la Révolution française. Je reçois le père Escande qui a dirigé le travail, le livre noir donc paru aux éditions du Cerf, ainsi que Jean de Vigry, historien spécialiste de la religion et de l'éducation au XVIIIe siècle. Alors, après une parenthèse consacrée à l'anthropologie de la Révolution, j'en viens finalement à la réaction. Est-ce que l'Église clandestine arrive à maintenir malgré tout, Jean de Vigry, l'essentiel ?
L'Église clandestine a mobilisé toutes ses forces pour le maintien de la messe. La messe qui est le cœur de la dévotion, comme dit saint François de Sales, qui est le centre de la religion catholique. Et donc, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour maintenir la messe partout où elle le pouvait. L'exemple le plus impressionnant, peut-être, est celui de cette messe dite quotidiennement chez Madame Bergeron, juste en face du tribunal révolutionnaire. Et c'était des prêtres qu'elle avait. Madame Bergeron avait une fabrique de coutellerie. Elle fournissait les armées de la République. Et elle avait engagé des prêtres réfractaires comme ouvriers. Et ces prêtres réfractaires, elle en avait trois, disaient tous les jours la messe. Et plusieurs personnes du quartier venaient y assister, juste en face du tribunal. Cela a duré un an et demi. Mais les cachettes des prêtres réfractaires, les abris clandestins où ils disaient la messe, sont innombrables en France. J'en ai moi-même retrouvé plusieurs lorsque je faisais mes travaux. J'étudiais cette question de la messe clandestine dans l'Ouest, en Anjou, en Vendée, en Bretagne. Et j'ai retrouvé plusieurs de ces abris, certains avec des peintures représentant un décor eucharistique, certains dans des caves, certains dans des hangars, dans des granges, certains dans des greniers. Enfin, il y a toutes les variétés. On pourrait faire un répertoire des abris clandestins pour la célébration de la messe.
Dans votre ouvrage « Christianisme et révolution », vous écrivez que l'histoire spirituelle, au fond, de la période révolutionnaire, reste à écrire. L'histoire de la pénitence, l'histoire de conversion, parce qu'il y a des conversions, l'histoire de la prière. Et vous évoquez l'union de prière. Comment s'exprime la dévotion en ce temps de persécution, en dehors donc de la question de la messe qui est centrale ?
Oui, les missionnaires, enfin les prêtres devenus missionnaires, puisque ils doivent affronter de grands périls, ils doivent circuler la nuit, ils doivent parcourir des distances très grandes, quelquefois, pour évangéliser les populations qui leur sont confiées, se préoccupent surtout de faciliter l'union entre les fidèles dont ils ont la responsabilité. Nous retrouvons, en somme, c'est une sorte de réplique à la fraternité révolutionnaire. La fraternité révolutionnaire qui est le souci permanent de maintenir l'union entre ces individus du grand tout. Or, les missionnaires, les prêtres clandestins, eux, veulent maintenir l'union entre les fidèles, les membres du corps mystique, et ne peuvent le faire que par la prière. Alors, il y a des unions de prière qui ont été faites entre les fidèles, dont nous avons plusieurs exemples, à Paris et en province. À la même heure, tous les jours, les fidèles s'unissent d'intention aux autres fidèles et prient ensemble à la même heure. On voit cela aussi dans les paroisses où la messe a disparu. L'église a été fermée, le prêtre a été obligé de partir en exil. Alors à ce moment-là, les fidèles de la paroisse décident non pas de se réunir, parce qu'ils ne peuvent pas, cela est interdit, mais de prier à l'heure de la messe, de prier ensemble à l'heure de la messe et de faire comme une sorte de petit corps mystique.
Alors, précisément, est-ce que malgré toutes ces persécutions, la politique de déchristianisation, au fond, est-ce qu'elle a été un succès ?
Bien sûr, elle a été un succès.
En 1799, on peut faire un bilan ?
Ah oui, oui. 1799, on dit toujours, 1799, c'est la fin de la Révolution. La Révolution ne finira jamais. Mais on dit, là, c'est la fin de la Révolution. Et donc, on revient à plus d'indulgence, plus de liberté. Au contraire, c'est une très mauvaise année. Je l'ai étudié en particulier dans le nord de la France, dans l'Artois, dans la Flandre. C'est une année où on démolit encore des églises, où beaucoup de sanctuaires qui subsistent sont fermés, où des prêtres sont encore sous surveillance et ne peuvent pas exercer leurs fonctions. C'est vraiment une année aussi difficile que les précédentes. Mmh. Parce qu'il y a, il ne faut pas l'oublier, il y a eu la révolution fructidorienne qui a été marquée par une recrudescence de la persécution. Donc, cette résistance... cette déschristianisation a été très forte jusqu'à la fin et elle a profondément marqué la France. Il faut savoir qu'en 1789, 95, 96, 17, je ne sais pas, presque 100% des Français pratiquent, font leur Pâques. Il y a évidemment peut-être dans les milieux de l'élite, chez les gentilshommes, de l'élite sociale, chez les gentilshommes, chez les philosophes, des non-pratiquants, mais ils sont très peu nombreux, ce n'est rien par rapport à la totalité de la population. Donc, il y a une pratique quasiment générale. Tout le monde fait ses Pâques, ou presque tout le monde. Voyez-vous, même les femmes qui reçoivent dans leur salon philosophique, Mademoiselle de l'Espinasse, lorsqu'elle fait le programme de sa semaine, elle met le dimanche d'abord la messe. Madame Geoffrin, qui reçoit tous les philosophes chez elle, va à la messe de sa paroisse, et même quelquefois elle y va en semaine. Donc il y a une pratique quasi générale. Et puis, que trouvons-nous à la fin de la Révolution ? Nous trouvons une pratique diminuée de moitié. Ce sont 50% des Français qui font leur Pâques.
Donc, à cause de la persécution, mais aussi à cause d'une révolution dans les esprits ?
Il y a aussi cela, certainement. La population masculine en particulier a été très marquée par l'idéologie révolutionnaire, qui est une idéologie anticléricale et antireligieuse. Certainement, il y a eu cet effet. Et puis, il faut savoir qu'à la fin de la période révolutionnaire et dès le début de l'Empire, du consulat et de l'Empire, on publie à nouveau, on édite à nouveau les philosophes. Mmh. Les philosophes n'ont jamais été autant publiés que sous l'Empire et sous la Restauration. Mmh. Il y a donc une imprégnation très profonde de la pensée philosophique après la Révolution, beaucoup plus qu'on ne croit. Mmh. Alors qu'avant la Révolution, la diffusion des ouvrages philosophiques était faible. Qu'est-ce qui est diffusé comme livre sous l'Ancien Régime ? C'est le livre religieux. C'est le livre religieux qui est partout, qui est dans toutes les maisons, dans toutes les bibliothèques. Il domine. Le livre de spiritualité, le manuel du chrétien, la conduite du pécheur, voilà les livres que l'on lit. Et les écrits philosophiques ne représentent presque rien à côté de cette masse énorme d'ouvrages religieux. Après la période révolutionnaire, c'est le contraire. Ce sont les écrits à tendance philosophique qui sont réédités et qui sont largement diffusés.
Alors pourtant, et nous arrivons au terme de cette émission, Jean de Vigry et Renaud Escande, pourtant le dernier mot, Jean de Vigry, de votre contribution est celui de Renaissance.
C'est celui de Renaissance parce que la religion est comme le phénix, elle renaît de ses cendres, en quelque sorte. Et c'est ce que nous voyons au XIXe siècle. Nous le voyons surtout, nous le voyons déjà sous l'Empire, et on le voit surtout sous la Restauration, parce que le régime y est plus favorable. Mais, et puis alors, la Révolution a connu de nombreux martyrs. Et comme vous le savez, le sang des martyrs est une semence de chrétiens. C'est la grande grâce qui a été faite à l'Église de France, c'est de pouvoir donner tant de martyrs. Et cette fécondité de l'Église de France, cette Église l'a méritée. L'Église de France au XVIIIe siècle connaît peut-être des prélats mondains, des évêques peu soucieux de spirituel, mais jamais la population française n'a été mieux instruite de sa religion qu'au XVIIIe siècle. Le catéchisme est enseigné à tous les enfants, ce qui n'était jamais arrivé au XVIIe siècle et encore moins au XVIe. Donc il y a une instruction religieuse qui est donnée partout. Il y a également une culture spirituelle, si je puis dire, par la diffusion des ouvrages religieux dont je vous parlais tout à l'heure. Et vraiment, il y a une expansion de la dévotion. J'en ai traité dans plusieurs de mes études, une expansion de la dévotion, une extension de la vie spirituelle qui est remarquable et qui explique la résistance très forte des populations, pas seulement des prêtres, parce que les prêtres, la moitié d'entre eux ont quitté le ministère. mais je pense surtout à la population laïque, à la population des simples fidèles, qui a résisté coûte que coûte à la persécution. Et ce qui le prouve d'une façon très nette, c'est le baptême. Presque tous les enfants nés pendant la Révolution sont baptisés. Les parents s'arrangent d'une manière ou d'une autre, soit pour baptiser eux-mêmes les enfants, ils savent le faire, soit pour le faire baptiser par un prêtre clandestin. Donc il y a une mobilisation réelle et une résistance réelle de la population pendant la Révolution, qui explique la Renaissance.
Eh bien, Jean de Viry, merci beaucoup. C'est sur ce mot de Renaissance que nous allons nous quitter. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Merci, mon père, Renaud Escande, d'avoir présenté le livre noir donc, de la Révolution française, paru aux éditions du Cerf. Plus de 45 historiens, juristes, journalistes, qui présentent donc la Révolution française, les faits, son génie, ainsi que des textes historiques, donc une anthologie de textes. Je rappelle également les références des ouvrages de Jean de Vigry, principalement son histoire et dictionnaire du temps des Lumières, paru chez Robert Laffont, ainsi que sa biographie de Louis XVI, paru aux éditions du Rocher, et enfin l'incontournable Les Deux Patries, paru chez Dominique Martin Morin. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.